Alors, je vous invite à lire l'un des trois textes qui nous sont proposés pour aujourd'hui, non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, les six premiers versets. Ésaïe 60, 1 à 6. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madianes et d'épha. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Lève-toi, brille ou resplendis, c'est ce que dit le verbe en hébreu, resplendis ou rayonne, car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Ce sont ces mots d'Ésaïe qui ouvrent notre année. Et ce sont des mots qui traversent les siècles un peu comme une lumière persistante, comme nous fêtons l'Épiphanie après Noël, année après année, une aube persistante. Ils ne décrivent pas seulement un événement, ils appellent un mouvement. Lève-toi, resplendis. Deux verbes adressés, il faut le rappeler, à un peuple fatigué, blessé, exilé, et peut-être désabusé aussi, c'est-à-dire qui a tout sauf la capacité de se lever encore, et encore moins de resplendir. Deux verbes qui aujourd'hui encore nous rejoignent dans ce temps de l'Épiphanie, qui est le temps de la manifestation par le haut, du dévoilement, de la lumière donnée. L'Épiphanie, ce n'est pas d'abord une fête spectaculaire, mais elle est dans le droit fil de ce qu'était Noël. Un être insignifiant qui arrive au milieu de la nuit, c'est tout sauf spectaculaire, surtout qu'il doit se cacher. L'épiphanie n'est pas plus remarquable, finalement. Ça n'est pas d'abord et avant tout une fête spectaculaire, ce n'est pas un feu d'artifice, quelque chose qui se signale de loin. Elle est plutôt une révélation lente, progressive, qu'il faut avoir le courage de chercher, un peu comme les mages. C'est une lumière qui n'éblouit pas pour dominer, écraser, en mettre plein la vue, si vous voulez, mais qui éclaire pour rassembler, pour montrer ce qui était caché, faire prendre conscience de quelque chose qui était resté dans l'ombre, une lumière qui ne s'impose pas, mais qui attire. Il faut se souvenir que cette parole est adressée à un peuple qui est dans une forme d'obscurité intense. C'est une lumière qui est promise au milieu d'une nuit terrible. Ce chapitre d'Ésaïe s'inscrit dans le retour d'exil, après l'édit de Cyrus. Jérusalem est là, mais elle est défigurée, démantelée, elle n'existe plus comme chef-lieu, comme capitale, comme centre religieux, puisque le temple a été détruit. Les murs sont en ruine. Et toutes les promesses qui allaient avec, de la présence de Dieu, avec, bien entendu. Tout cela, évidemment, semble fragile, et l'enthousiasme du retour a déjà laissé place à la fatigue du réel, tel qu'il est. Ce n'est pas un peuple triomphant auquel Ésaïe s'adresse ici, ils ont plutôt les épaules tombantes, et ça se comprend. Ce n'est pas un peuple triomphant qui entend ces paroles, mais un peuple plongé dans l'ombre. Voilà pourquoi il dit, voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Eux sont vraiment concernés alors, par ce constat. Vous voyez, Les gens qui ont pris la Bible pour un ensemble de contes un peu naïfs ne l'ont pas lu beaucoup, en général. Ils ne l'ont pas lu du tout, parfois. Les Écritures ne nient jamais la nuit. Elles mettent le doigt dessus. La nomment, la reconnaissent plutôt. Elle sait, cette Écriture, les ténèbres collectives, celles de l'histoire, de la violence, de la justice que traversent ces peuples, celles que nous constatons autour de nous, que nous subissons aussi peut-être. Et puis il y a les obscurités intimes, le découragement, doute, l'absurdité, la perte de sens, une place qu'on cherche dans le monde tel qu'il est et sans la trouver. C'est précisément là que surgit la parole d'Ésaïe, non pas pour nier la nuit, mais pour y faire naître une possibilité nouvelle dans ce brouillard, ce noir qui t'entoure, cette obscurité. Sur toi, le Seigneur se lève, c'est-à-dire la lumière ne supprime pas immédiatement l'obscurité du monde, mais il y apparaît fragile, persistante pourtant, comme une promesse en acte. Une lumière est promise par Ésaïe, mais il faut se souvenir qu'elle se reçoit. C'est très important. Lève-toi, resplendis. L'ordre peut sembler un peu étrange, un peu paradoxal. Comment resplendir quand on se sent vidé, comme ce peuple se sentait à plat à ce moment-là? Comment resplendir quand on ne perçoit en soi aucune petite lumière, aucune clarté, aucun éclat? Mais le texte ne dit pas, justement, « produis ta lumière ». Il dit « reçois-la ». Ta lumière arrive. Si c'est ma lumière, je la possède déjà. Non, ta lumière arrive. Elle te parvient. La tradition biblique est toujours claire sur ce point. La lumière, ce n'est pas un effort, une performance morale. C'est surtout un don qui nous fait tout d'un coup déborder et dont il faut faire quelque chose. Elle précède une action. Elle lui montre la direction, d'une certaine manière. Elle nous est donnée avant même que nous sachions quoi en faire. Et pour nous, cette nuance, je crois, est essentielle. Nous ne sommes pas appelés à briller pour mériter quoi que ce soit, sans doute, ni à exhiber une supériorité spirituelle. Supérieure en quoi, d'ailleurs, hein ? La lumière dont parle Ésaïe est une présence. La gloire du Seigneur, c'est-à-dire sa présence palpable, dense, pesante presque, sa densité, sa profondeur, est au cœur même du monde. Elle est déjà là. Resplendir, ce n'est pas en mettre plein la vue ou éblouir, c'est laisser transparaître, c'est devenir surface de passage, un lieu de réverbération, si vous voulez, quelque chose qui renvoie un reflet. C'est une invitation à être lunaire, à recevoir une lumière et à la refléter autant que possible, comme le fait la lune, comme le font les étoiles, avec une lumière solaire, sans se prendre soi-même pour le soleil. Devenir une surface de passage et un lieu de réverbération, tout un programme. Comme la lune ne possède pas sa propre lumière, mais reflète celle d'un astre plus grand. Ainsi, le peuple et avant lui, l'Église est appelée, et avec lui plutôt, l'Église aujourd'hui, nous donc, est appelée à refléter une lumière qui le dépasse. Ce que Ésaïe dit aussi fort bien dans ces lignes très, très belles, très poétiques, c'est que cette lumière attire sans contraindre. C'est un petit peu le contraire de ce que nous avons chanté tout à l'heure. Il y a une strophe, je l'ai mal lue, j'aurais dû en donner une autre, mais qui dit « sa vérité va s'imposer ». Pas du tout raccord avec le texte d'aujourd'hui. Peut-être qu'on peut supposer, mais là j'interprète beaucoup, que celui qui a écrit cette strophe-là voulait dire que elle s'impose, elle finit par s'imposer par la persuasion, mais certainement pas par la force de son éclat ou par sa force tout court. Par la force, en tout cas. Bon, c'est une hypothèse, mais je vais rester sur celle-là. Elle est satisfaisante, pour moi au moins. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Ce verset a parfois été lu comme une affirmation de domination spirituelle. Les autres viendraient se soumettre à la lumière de Jérusalem. C'est tellement brillant, ça en met justement tellement plein la vue que les autres ne peuvent que venir se mettre à genoux devant elle. Ce n'est pas du tout ce que dit Ésaïe. Plus fidèle à l'esprit prophétique, il faut y percevoir autre chose, une sorte d'attraction libre. On ne marche pas vers une lumière par obligation. On s'en approche parce que elle nous montre des choses que nous n'avions pas vues ou oubliées, ou gardées dans l'ombre, parce qu'elle réchauffe aussi, parce qu'elle oriente, parce qu'elle promet un sens. Elle nous envoie vers quelque chose que nous n'espérions plus. Donc la lumière ne se conquiert pas, elle appelle simplement, elle ne force pas, elle espère. C'est de ça que nous parle Ésaïe. Et en ce dimanche de l'Épiphanie, il faut penser naturellement aux mages dont nous avons relu le récit il n'y a pas très longtemps. Ces mages venus d'Orient, ces chercheurs étrangers, croyants, mais croyants d'ailleurs et autrement, qui suivent une étoile sans appartenir au peuple de l'Alliance et qui repartent. Et le texte ne nous dit pas qu'ils se seraient convertis à quoi que ce soit. Ils sont venus, ont été bouleversés par quelque chose et sont rentrés chez eux en évitant soigneusement Hérode. Et on sait pourquoi. Nous n'avons pas la fin de l'histoire des mages, nous ne savons pas ce qui s'est produit une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Il me semble que s'ils ont compris ce qu'ils ont vu dans la crèche, ils n'ont pas gardé ça en le mettant par écrit dans un petit rouleau, hein, parce qu'à l'époque ce n'était pas des livres, mais plutôt des rouleaux de parchemin, cachés entre deux autres rouleaux dans leur bibliothèque pour le garder pour eux. Il me semble qu'ils se sont dépêchés de dire aux autres « Regardez ce que nous avons trouvé ». Et ils ont bien fait. Ces mages ne sont ni contraints. Ils ont suivi une étoile, une lumière qui déjà les appelait. Ils ne se sont pas convertis ou forcés d'aller vers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ils sont attirés, ils reconnaissent dans la fragilité d'un enfant la clarté qui les dépasse. Eh bien, l'Épiphanie, qui est le moment où toute cette séquence de Noël se clôt pour nous, c'est aussi la fête de cette lumière qui commence à faire son effet, qui est profondément écuménique puisqu'elle va partout. Ceux qui la cherchaient sont venus de partout et ils sont repartis avec elle. Elle affirme que la vérité de Dieu ne se laisse pas enfermer, mais qu'elle se donne à voir au-delà des frontières, qu'elle parle plusieurs langages. C'est presque un passage que nous pourrions relire à Pentecôte, avec Acte 2. Et puis, Ésaïe nous fait un pas de plus en nous disant que cette lumière très particulière ouvre l'avenir. Elle pourrait nous consoler dans le présent et ne pas aller plus loin. Elle pourrait s'arrêter là, elle aurait déjà fait beaucoup pour nous. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Le prophète invite à un déplacement du regard. Lève les yeux. C'est-à-dire pour ce peuple-là, qui rentre découragé de voir une société détruite, aussi détruite à leur retour qu'elle l'était au moment où ils ont été forcés de s'exiler. Rien n'a été redressé finalement. Des ruines. Lève les yeux, c'est ne reste pas courbé sur tes ruines, sur les regrets, les remords, les échecs, les choses qui n'ont pas marché ou qui ont marché longtemps et qui ne marchent plus, les choses auxquelles tu tenais et qu'on a détruites devant tes yeux. Ne fixe pas uniquement ce qui manque, ce qui est perdu, ce qui a échoué, mais regarde autrement et plus loin. C'est pas facile. La foi telle qu'elle est décrite par Ésaïe, cette confiance en ce qui vient, n'est jamais une nostalgie. Il y a toujours une part d'arrachement à ce regard posé sur nos échecs. C'est une espérance active qui ose imaginer un avenir là où le présent semble clos et ne déboucher sur rien. Elle ose dire ce qui vient est peut-être plus vaste que ce que nous avons connu. C'est un petit peu comme le verre à moitié vide. Mais vous connaissez peut-être ce proverbe, il faut dire à quelqu'un si tu vois le verre à moitié vide, eh bien verse-le dans un verre plus petit et arrête de nous casser les pieds. C'est une forme de sagesse qu'on peut éventuellement... C'est ma chère épouse qui l'a lu sur son téléphone il y a 2 jours. Je l'intègre, immédiatement dans ce que j'ai à vous dire, ça allait parfaitement. Une forme de sagesse là-dedans, un arrachement sur de ce qui manque pour aller vers une autre forme de plénitude, puisqu'il y a toujours quelque chose à donner, à partager. Dans une église qui est parfois tentée par le repli parce qu'elle s'inquiète de son avenir, c'est le cas de la nôtre, mais toutes les églises s'inquiètent de leur avenir, elles sont confrontées à la sécularisation, la fragilité de ces structures, les foyers cotisants qui baissent, etc., etc. Elle regarde ces courbes baisser avec une certaine inquiétude et ça lui donne parfois, pas toujours heureusement, mais parfois des réflexes paniques d'entreprises qui cherchent tous les moyens de redresser les courbes quand c'est possible. Et cette situation résonne toujours avec un ordre promesse comme « lève les yeux ». L'avenir de la foi ne se mesure pas seulement en des chiffres ou en traditions conservées, il se mesure à la capacité de rester, de demeurer un espace de lumière, d'accueil, de parole libre et responsable, d'être ce point de passage, même s'il est tout petit, même s'il est modeste. Pas modeste au point de s'éteindre et de ne plus rien représenter, bien sûr, mais à la mesure de nos moyens. Alors tu verras, dit Ésaïe, et tu rayonneras ou tu brilleras, ton cœur frémira et se dilatera. C'est peut-être la partie la plus belle de ce passage, un des versets les plus poétiques où la lumière ne transforme pas seulement le monde extérieur, mais travaille l'intérieur de l'être humain. Le cœur frémit, se dilate, s'élargit. On est loin du verre à moitié vide, on est déjà dans le trop-plein qui se distribue. Voyez comme ça a changé, en quelques lignes. La joie n'est pas une euphorie passagère, mais une espèce de transformation du regard et du désir. Elle est ce mouvement intérieur qui nous rend capables d'accueillir plus large que nous-mêmes. Et puisqu'il y en a trop, il n'y a plus que le don. Dans notre perspective, cette dilatation du cœur est essentielle parce qu'elle nous dit que ce qui nous rassemble ici ne se crispe pas, ne se défend pas contre le monde, en y gâchant peut-être toute son énergie, mais s'ouvre au dialogue, à la complexité, à la pluralité des chemins de chacun, tels que nous sommes aujourd'hui, et de tous ceux qui nous rejoignent, qui acceptent de ne pas tout maîtriser, mais qui fait confiance à une lumière qui n'est pas la nôtre et que nous nous sommes contentés de recevoir pour continuer son œuvre en nous et dans tous ceux qui nous rejoignent et ont été attirés par la même étoile. Mais ce n'est pas simplement une abondance capitale, quelque chose qu'on accumule, qu'on met sur un compte et qu'on laisse travailler. Vous voyez l'esprit qui fait des petits et qui travaille tellement bien que ça nous dispense de travailler nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce genre d'abondance-là. Si les versets 5 et 6 évoquent des richesses, hein, de l'or, de l'encens, on reconnaît d'ailleurs une partie des cadeaux des mages qui venaient aussi avec ces dons-là, des troupeaux innombrables, etc. Ce langage peut peut-être nous mettre à l'aise. Alors, ça a bien marché pour eux, hein, finalement. Mais il ne s'agit pas d'une apologie de l'opulence, une opulence qu'on garde pour soi en plus, mais d'une vision particulière de la plénitude, un peu comme une corne d'abondance. L'abondance biblique, ce n'est jamais une accumulation égoïste. Elle est ce qui circule, ce qui est partagé, ce qui devient louange ou reconnaissance. Ils annonceront les louanges du Seigneur, hein, ce que dit Ésaïe. Les dons ne sont pas une fin en soi, mais ils deviennent forcément, avec tous les gestes, une parole de reconnaissance, une action de grâce. C'est pour ça que le dimanche de l'Épiphanie nous rappelle que tout ce qui est donné, et nous avons reçu beaucoup, intelligence, sensibilité, engagement, ressources, nous avons tout ça. Tout cela peut devenir lieu de manifestation de Dieu à condition d'être offert, orienté et mis au service de la vie. C'est tout. Ça pourrait être une bonne définition d'une église d'ailleurs, ça suffirait. Lève-toi et resplendis, je reviens au début, au tout début. Cette parole n'est pas un petit slogan à mettre sur une banderole pour aller dans une manif ou à écrire sur un t-shirt, ce serait dommage. Ça ne dure jamais très longtemps. C'est une vocation à long terme. Elle nous rappelle que nous devons être là où nous sommes, des lieux de passage pour la lumière dans nos relations, dans nos engagements divers et variés, dans notre manière d'habiter le monde avec responsabilité et avec espérance, des reflets qui retransmettent une lumière qui n'est pas la leur vers quelqu'un qui est dans l'ombre. La lumière de Dieu ne supprime pas les ombres. Ce n'est pas ce que dit Ésaïe, il n'y croyait pas, il avait bien raison. Il était lucide, c'est le cas de le dire. Mais la lumière apprend à marcher sans nous perdre. Elle nous apprend à reconnaître, même dans la nuit, des signes discrets d'une aube possible. Ça ne veut pas dire certaine, mais possible. En ce dimanche de l'Épiphanie, que notre confiance, notre foi ne soit ni possessive, comme pour garder un capital qui ferait des petits ou qui produirait quelque chose et qui de toute façon nous file entre les doigts, ni une confiance un peu branlante, timorée, mais offerte et confiante. Ce que nous devons oser croire, c'est qu'une lumière nous précède toujours, nous arrive par le dessus, une épiphanie, et que humblement nous consentions à la refléter. Et c'est à peu près tout. Amen.